Nous accueillons Monsieur Fabrice Hadjadj. Il est professeur agrégé de philosophie et de critique littéraire. Il est actuellement directeur de l'Institut Philanthropos, ici à Bourguillon, près de Fribourg. Marié et père de 6 enfants, il est membre aussi du Conseil pontifical pour les laïcs. Il a publié une 20aine d'ouvrages que vous trouverez au stand librairie, et il publie pour les Suisses romans, il publie régulièrement un trait libre dans l'Écho magazine. Fabrice, vous avez la parole.
Alors, la première chose que je tiens à vous dire, c'est que je n'aime absolument pas témoigner. J'ai l'habitude de faire des cours de philosophie, de dire des choses en général ou de raconter des histoires éventuellement, mais parler de moi-même, ça m'est particulièrement difficile. Pas simplement pour des raisons de pudeur ou par crainte de m'étaler, de me mettre au centre alors que c'est le Christ qui doit être au centre, mais pour différentes raisons. D'abord, sur lesquelles je voudrais vous prévenir. La première chose, c'est que le témoignage d'une conversion, ça a un petit côté un peu spectaculaire. Et à la fin, on pourrait se dire, ah ben moi, je suis pas converti, j'ai toujours été chrétien. Vous voyez, et on regrette finalement de ne pas avoir été drogué, prostitué dans un grand tunnel noir pour avoir vu la lumière autour. Bon, ça c'est un vrai problème, hein, cette manière de raconter qui ressemble à une sorte de success story. Hein, c'est assez embarrassant. La deuxième chose, c'est que quand on raconte une histoire de conversion, on raconte que la partie émergée de l'iceberg, si vous voulez, parce que c'est le moment d'une prise de conscience. Mais si on devient chrétien, c'est pas simplement parce qu'il s'est passé ceci ou cela dans une vie qui ne s'est pas passé dans d'autres vies, c'est simplement parce qu'on existe. C'est simplement parce qu'on respire, c'est simplement parce que l'être est créé par Dieu et va vers Dieu. Et vous avez vu, vous avez été touché par la beauté d'un visage, par la beauté de la nature, par la beauté des choses, par des événements aussi, des événements dramatiques qui vous ont peut-être ouvert sur autre chose. Mais c'est ça l'essentiel. Hein, c'est vraiment ce mystère de l'être qui est d'abord là. Et ça, tout le monde l'a, vous voyez. Alors, il y a des petites histoires, il y a des histoires de prise de conscience, mais il y a d'abord ça. Et puis la troisième chose que je voulais vous dire aussi, c'est que quand on raconte une conversion, on fait comme si on était arrivé à un point d'arrivée, justement. Ouais. Ça y est, une convertie, alors tout le monde est flatté, ça y est, il est rentré dans notre club. Parce que vous voyez, vous témoignez devant des catholiques, généralement. Bon, si vous témoignez devant des anti-chrétiens, ça c'est bien. C'est intéressant. Mais là, non, alors on est entre nous, alors les gens disent « Ah, ça y est, il est devenu comme nous, c'est très bien, donc on se sent flatté. » Et puis, on se dit « Voilà, donc c'est le point d'arrivée. » Non, c'est un point de départ. Ça n'est qu'un point de départ. C'est-à-dire, je vais vous raconter comment je suis devenu un chrétien quelconque. Comment a commencé pour moi une exigence radicale, une exigence d'amour, de vérité, de pauvreté, de suivre le Christ jusqu'à la croix. Voilà. Je ne dis pas que je le fais, hein, je dis que maintenant je le sais, hein, et que je peux devenir pire de le savoir et de ne pas le faire. Vous voyez, c'est ça la question. D'ailleurs, je vous précise, hein, que s'il n'y avait pas la joie, s'il n'y avait pas la justice, eh bien, il n'y aurait pas de drame. Vous voyez, c'est précisément parce qu'il y a la joie et que la foi nous le fait savoir que le malheur peut nous faire si mal. C'est précisément parce que nous savons qu'il y a la justice et que nous pouvons légitimement avoir faim et soif de justice, que l'injustice peut nous faire si mal. Sinon, on s'anesthésie, comme tout le monde. Et voyez, je crois que le passage d'une conversion, que ce soit d'une vie de non-chrétien à une vie de chrétien, ou que ce soit d'une vie de chrétien qui a reçu ça sans trop y réfléchir, à cette seconde conversion, on reprend cela, c'est vraiment aussi une sortie de l'anesthésie. Quand vous devenez chrétien, tout devient plus beau, mais tout devient aussi plus tragique en même temps, et vous sortez de l'anesthésie. La réalité est là et la réalité vous apparaît de manière plus cru, si j'ose dire. Vous voyez, du verbe croire, mais aussi de la crudité. Hein. Voilà. Donc je voulais faire ces précisions au départ. Vous voyez, j'aurais pu faire déjà 3 heures. Alors, moi j'ai commencé en étant 3 fois, on pourrait dire, éloigné du Christ, même si lui il était 3 fois plus proche de moi, mais je ne le savais pas. La première chose, c'est que je viens d'une famille juive, et qui plus est, d'une famille juive, c'est pas comme Jean-Marie et Lise Edbon que vous entendrez. Moi je suis d'une famille juive qui était plutôt assimilée, et même plutôt marxiste. Donc une famille juive de gauche, d'extrême gauche. Mon père a fait mai 68 quand il était à l'université de Nanterre dans la banlieue parisienne. Et chez moi, il n'y avait pas de Talmud. Il y avait peut-être une vague Bible quelque part, mais il y avait surtout des livres de Marx, de Engels, de Gramsci, etc. Donc vous voyez, c'est plutôt ça. Donc vous voyez, juif et... donc, quand on est juif, vous voyez, forcément, les chrétiens, c'est des gens qui suivent, hein, une sorte de prophète, de faux prophète, ou donc c'est des traîtres, enfin, ils n'ont rien compris. Puis, en plus, marxiste, alors, et j'étais déjà éloigné, là, profondément par ma famille. La deuxième chose, c'est que je suis vraiment un fils de l'école laïque républicaine française. Il faut savoir qu'en France, on n'est pas dans une logique simple de laïcité, mais une logique de laïcisme. Et que vraiment, il y a un fond, il y a un climat qui reste profondément anticlérical, sinon antichrétien. Avec un arrière-plan de scientisme, l'idée que plus la science se développe, plus la religion doit reculer, etc. Enfin, des tas de clichés. Et donc ça m'a marqué aussi profondément. J'étais aussi un fils de cette école-là. Ce qui pose d'ailleurs le problème, hein, de l'école pour les enfants. Et enfin, il s'est trouvé que, non content d'être à ce point éloigné, j'ai voulu être éloigné davantage, puisque mes premières amours littéraires sont l'amour d'auteurs spécialement athées. Nietzsche, ma découverte de Nietzsche a été très très forte, et d'ailleurs je crois que je reste toujours très marqué par lui. Et puis un auteur français qui s'appelle Georges Bataille, qui avait écrit une somme athéologique. Ouais, sa grande œuvre s'appelle Somme athéologique. Donc vraiment, c'est la théologie avec L apostrophe, vous voyez, qui était pour moi la chose fondamentale. Mais déjà, vous voyez, c'est déjà le signe d'un basculement, parce que quand vous êtes obsédé, vous êtes anti-chrétien, vous êtes encore chrétien d'une certaine façon, vous voyez, vous êtes encore obsédé par la chose. Et d'ailleurs, moi qui n'avais pas reçu de culture chrétienne, c'est par des auteurs anti-chrétiens que j'ai découvert le christianisme. Donc méfiez-vous, hein, je dis ça à vie aux athées qui donneraient à lire du Nietzsche à leurs enfants, ça peut mal tourner. Et tout cela était pris dans un sentiment, je crois, propre à ma génération, et peut-être à une génération précédente, pas à la génération qui est sortie de la guerre, mais vraiment la mienne. Moi, je suis né en 1971. C'est que j'avais le sentiment que l'espèce humaine était une espèce finie. Une chose pour moi très très marquante qui m'a alors quand je dis ça, vous voyez, c'est terrible, hein. C'est-à-dire que il me semble que après Auschwitz, après Hiroshima, après le Goulag, d'une certaine façon, nous ne croyons plus vraiment au progrès. Il y a eu des générations qui ont cru au progrès, vous voyez, on allait faire une société meilleure. D'ailleurs, cet optimisme-là était lié aussi à une forme d'anti-christianisme, hein, puisque finalement, on allait se sauver par ses propres forces. Et on a vu que les grandes utopies politiques, les grandes utopies progressistes, ont conduit à des totalitarismes, d'une part. Puis, avec Hiroshima, avec un certain développement de la technique, à l'idée que l'homme peut détruire, que l'espèce humaine peut s'auto-détruire complètement. C'est vraiment ce qui caractérise, je pense, notre époque. Et moi, avant même de lire les auteurs qui en parlaient, je le sentais profondément. Il y a un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Günther Anders, qui dit « Nous ne vivons plus dans une époque, mais dans un délai. » Mais ce sentiment d'imminence, avec tous ces films sur la fin des temps, la fin du monde, les grandes catastrophes, etc. Mais on est vraiment dans ce climat de catastrophisme. Et quand j'ai commencé à écrire, j'ai commencé à parler de choses terribles, avec cette sorte de noirceur, de désespoir, de cruauté même. Mais vous voyez, le vrai problème, c'est que j'étais jeune. Vous savez, la cruauté, le désespoir, c'est un luxe de la jeunesse, souvent. Quand on est plus âgé, c'est plus difficile. On peut s'amuser à l'être, parce qu'on a cette sorte de vitalité. Et il y avait donc, au fond de moi, une sorte de contradiction. Par exemple, j'étais cruel, j'écrivais les choses les plus noires, les plus difficiles, mais vous voyez, si je me blessais le petit doigt et que je voyais mon sang couler, je tournais de l'œil. Voilà, c'est normal. Et je parlais de la fin de l'espèce humaine, et en même temps j'avais envie de d'être aimé de telle jeune fille qui m'avait éconduit, hein, vous voyez, bon. Et c'est cette sorte de contradictions qui sont typiques, hein, d'une certaine jeunesse. Et en même temps, j'avais atteint une sorte de lucidité extrême de l'âge adulte, mais j'avais aussi perdu quelque chose que j'appellerais la lumière de l'enfance. Je dis ça, c'est très important, parce que une des choses qui m'a beaucoup frappé dans la conversion, c'est tout d'un coup l'unité qui s'est faite en moi entre la lucidité de l'adulte et la luminosité de l'enfance. Et j'ai pas détruit, vous voyez, une sorte on peut voir les choses terribles en face, mais on garde en soi cette sorte d'abandon, d'allégresse, voyez, de l'enfance, voyez, des rêves aussi de chevalerie, voilà. C'est ça, c'est ce que donne le christianisme, une sorte d'unité entre les âges de notre vie. Alors comment le retournement s'est passé? Je vais vous donner que quelques éléments, parce que quand il y a une conversion, en tout cas dans mon cas, j'ai vu que Dieu a fait conspirer toutes choses, quoi, autour de moi. C'est-à-dire que j'avais plus où aller, quoi. C'est à chaque fois, tout devenait chrétien, quoi que je fasse. Bon, donc là, c'était difficile. En fait, c'était le même monde, mais c'est comme si des écailles me tombaient des yeux, vous voyez, et que tout d'un coup, je voyais que ce monde me parlait du Christ. Alors, ça s'est passé par quelques événements. Il y a eu une rencontre importante quand j'étais à l'Institut d'études politiques de Paris, parce que j'ai fait cette école qu'on appelle Sciences Po. J'ai rencontré un jeune catholique maronite. Il était un petit peu plus âgé que moi. Et il était extrêmement fougueux dans sa foi. Il n'avait pas peur de dire qu'il était catholique. Il était très rentre-dedans. En plus, il avait un groupe de pop-musique. Il était très à l'aise avec les filles, donc je me suis dit, mais c'est possible, quoi. Moi, je pensais que c'est forcément un catholique, c'était un type coincé, etc. Bon, ouais. Voilà, et il a fait autre chose qui pour moi a été décisive, c'est qu'il m'a mis entre les mains, ou il m'a fait découvrir un grand auteur catholique de la fin du 19e, début 20e siècle, qui s'appelle Léon Blois. Vous le connaissez peut-être, vous le connaissez peut-être pas. Il se trouve que Léon Blois a été le premier auteur cité par le pape François au lendemain de son élection, dans son homélie à la chapelle Sixtine. Et vous voyez, Léon Blois est un auteur d'une grande force imprécatoire, d'une grande force littéraire, hein, une radicalité extrême. C'est comme si j'avais découvert un Nietzsche catholique, et qui, en étant catholique, était encore plus allé plus loin que Nietzsche, peut-être, pour moi. D'ailleurs, en même temps, je m'étais mis à lire les prophètes de l'Ancien Testament, notamment. Je lisais la Bible plutôt pour essayer de la détourner, vous voyez, pour m'amuser avec, parce que comme j'écrivais, quand vous écrivez, vous êtes à un moment confronté au livre, donc à la Bible. Et à ce moment-là, je me suis dit, je vais prendre des citations pour les détourner, pour faire des petits jeux décadents avec. Et curieusement, j'ai lu le prophète Isaïe, et en lisant le prophète Isaïe, je me suis dit, mais ce qu'il dit sur les croyants, si j'ose dire, c'est d'une violence, je me suis dit, mais en réalité, la critique de la religion est interne à la religion, et pas extérieure. Et je découvrais ça avec les grands prophètes. Le nietzschéisme, il était déjà dans la Bible. Et c'est ça qui m'avait étonné. La deuxième chose, c'est que j'étais dans une réflexion intellectuelle justement sur les développements de la technique. Et d'une part, j'avais ce sentiment qu'on pouvait tout détruire, mais aussi qu'on pouvait faire muter l'homme pour en faire une sorte de surhomme, hyper performant, et aussi désincarné, vous voyez, hyper connecté, hyper dans l'hypermédia. Vous voyez, bon. Et cette chose-là, je sentais que c'était faux. J'ai toujours senti que c'était faux. Et j'ai cru à un moment à la vérité d'une part du corps, de la chair telle qu'elle est donnée dans sa vulnérabilité, et j'ai cru aussi au fait que la dignité de l'homme n'était pas dans ses performances horizontales, mais était peut-être dans son interpellation verticale, vous voyez, dans quelque chose qui est de l'ordre du cri. Et tous les grands auteurs anti-chrétiens que j'avais lus m'avaient préparé, vous voyez, à cette sorte de radicalité qu'on pourrait appeler une radicalité à corps et à cri. Et forcément, cette idée de la vérité de la chair, de la vérité du cri, qui porte peut-être quelque chose de divin, me préparait profondément à la rencontre du mystère de la croix. Et un jour... alors que ma mère va m'appeler, donc j'étais dans ses lectures, dans tout ça, et ma mère m'appelle pour me dire que mon père va très mal, et elle me demande, elle me dit de venir tout de suite. J'habitais sur le boulevard Saint-Michel, et avant d'aller chez mes parents, et mon père, on pense qu'il était sur le point de mourir, etc., je me dis, qu'est-ce que je peux faire? Je suis impuissant, je ne suis pas médecin, je ne suis pas pompier, je ne suis pas tout ce que vous voulez. Bon. Eh bien, je suis allé à l'église Saint-Séverin. Je ne sais pas pourquoi j'y suis allé. Il faut savoir que cette église, c'est l'église où j'étais allé deux semaines auparavant avec un de mes amis qui était à Sciences Po avec moi, qui s'appelle Dieu. C'est son nom de famille, Frédéric Dieu. Et donc Dieu et moi, on se moquait de... Il n'était pas chrétien non plus, enfin il avait été baptisé lui, mais il était plutôt anti-chrétien. Bon, et on regardait les ex-voto. Hein, les ex-voto, merci pour ce succès à mon examen, merci. Et alors on rigolait, quoi, on se disait, mais vraiment n'importe quoi, si tu crois en Dieu, tu... Vas-y, tu vas à fond, c'est la croix, c'est le... Tu vas pas demander, Dieu c'est pas un doudou, on va pas lui demander des petits trucs, voilà, c'est stupide. Et donc on était rentrés dans cette église pour se moquer des ex-voto autour de Notre-Dame du Bon Secours. Et bien moi, quand je me suis senti impuissant, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé dans cette église et j'ai prié Notre-Dame du Bon Secours. Voyez l'humiliation, hein, enfin l'auto-humiliation que je m'infligeais, je ne sais pas en tout cas que les événements me poussaient à réaliser. Et voilà, et à ce moment-là, j'ai prié, et à ce moment-là, vous voyez ce que je disais sur cette verticalité, j'ai eu le sentiment d'être à ma place. Je n'ai pas eu de grande lumière, je n'ai pas eu d'expérience inouïe. J'ai eu le sentiment d'être au poste, au bon endroit, dans la vérité de l'être. Voilà. Que la vérité de l'homme, c'est cette verticalité hein, qui est donnée par la station droite, vous la voyez, mais aussi de relier le ciel et la terre dans un cri, que ce soit un cri de supplication ou un cri de louange. Et cette vérité ne m'a plus jamais quitté, et depuis. Voilà, donc en après cela, et maintenant je suis dans l'épilogue, il y a plein de choses que je ne vous ai pas racontées, bien sûr. J'ai été baptisé, je voulais être baptisé dans un lieu lié à une vraie tradition d'église catholique. Donc j'ai été baptisé dans un monastère bénédictin, l'abbaye de Solesmes. Et j'ai reçu une formation assez extraordinaire du fait même de cette proximité avec la vie monastique qui m'a donné une sorte de base dans la connaissance de l'Église, de la liturgie. Il faut toujours être lié, je crois, à des monastères anciens. Mais je dois dire aussi que, parce qu'on parle souvent de conversion et de baptême, mon baptême, pour moi, c'est surtout développé à travers un autre sacrement qui est le sacrement de mariage. Le mariage, m'a fait sortir, je crois, de quelque chose, d'une tentation très forte chez les intellectuels, qui est d'être dans trop cérébral, vous voyez, dans le concept, dans leur tête. Et vous voyez, dès le départ, je croyais en l'incarnation, je croyais en la chair, je croyais au corps, mais ça restait le concept de la chair. Et il reste que là, en devenant, en étant époux, en étant père de famille, en étant pris dans cette vérité de la vie familiale et donc d'une vie quotidienne, ma pensée a trouvé une forme de réalisme. Voilà. Je dois dire ça, c'est que ce qui pousse au réalisme, c'est cette vie avec les autres et que la famille nous donne, parce que la famille, c'est toujours, on est toujours avec des personnes qu'on n'a pas vraiment choisies. Même sa femme, on a consenti à un élan, mais enfin, on n'a pas complètement choisi sa femme. En plus, c'est une femme, donc par définition, un homme et une femme ne se comprennent pas. Ils s'entendent. Ils ne cessent. D'ailleurs, ils ne font que parce qu'ils ne se comprennent pas, ils n'arrêtent pas de s'entendre toujours plus. Hein, mais au final, et c'est ça qui est beau. Hein, vous savez bien que l'ouverture d'un sexe à l'autre, comme le dit le début de la Genèse, c'est l'image de Dieu. Donc c'est justement l'ouverture à une transcendance, à quelque chose qui nous échappe. Et voyez, c'est donné comme ça dans cette réalité de la chair. Et puis, l'autre chose, c'est que la foi au Dieu créateur m'a donné un grand sens, je crois, de l'objectivité. Croire que Dieu est le créateur de toutes choses, c'est pouvoir regarder les choses en face. Parce que vous avez cette confiance que, pour moi, le Dieu, c'est pas simplement dans certains livres, dans certaines choses, ou entre nous, entre chrétiens. Non, Dieu est le créateur de toutes choses. Je marche dans la rue, je croise quelqu'un, c'est encore un envoyé de Dieu. C'est Dieu qui le crée à cet instant-là. Toutes les réalités du monde viennent de Dieu, et donc elles sont toutes dignes d'être contemplées, regardées en face, sans crainte. Vous voyez ? Enlevez vos œillères. Si vous êtes croyant, vous ne pouvez qu'enlever vos œillères. Et voilà. Et au terme de tout cela, j'ai eu la chance de aussi, grâce à des personnes d'ailleurs qui sont ici, de devenir directeur de l'Institut Philanthropos à Bourguignon. C'est ça qui fait aussi que je suis parmi vous. Et ça a été une très grande grâce pour moi, parce que c'est presque un peu le couronnement aussi de tout ce que j'ai pu chercher. À Bourguignon, on mène une vie académique, intellectuelle, on essaye de penser le réel, mais justement dans une objectivité qui nous vient de la vie spirituelle, parce qu'on sait que Dieu est le créateur de toutes choses, donc on se tourne avec confiance vers les choses, mais aussi à l'intérieur d'une vie familiale, d'une vie fraternelle, puisque les étudiants vivent sur place, on vit ensemble, on a cette relation de personne à personne, de communauté, c'est pas comme ces grandes universités où les étudiants sont des matricules. C'est vraiment la rencontre et la vie commune, telle sorte que la vie de l'intelligence n'apparaît pas comme une spécialité, mais comme quelque chose qui vient dans la conversation à partir du quotidien. Voilà. Merci beaucoup.
Merci beaucoup à Fabrice Adjadj, qui dédicacera aussi ses livres pendant la pause.